Via 95 FM vous présente une émission spéciale d'information.
Les élections fédérales sont dans une semaine. Et ce soir, les candidats des formations politiques représentés à la Chambre des communes débattent de sujets qui vous touchent. Un dernier débat avant de faire votre choix. En collaboration avec le Courrier Sud, Via 95 présente Élections fédérales 2021, le débat. Et voici le modérateur de cette soirée, le journaliste Jocelyn Ouellette.
Bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue à ce débat mettant aux prises des candidats dans Bécancour-Nicolet Sorel pour l'élection générale du 20 septembre. Je suis en compagnie de Marie-Ève Veillette, rédactrice en chef au journal Le Courrier Sud. Bonsoir, Marie-Ève.
Bonsoir, Jocelyn.
Marie-Ève, qui posera des questions aux candidats des cinq formations politiques représentées à la Chambre des communes que nous accueillons aujourd'hui dans nos studios. Par ordre alphabétique, Yannick Caisse, du Parti conservateur du Canada. Bonsoir, M. Caisse.
Bonsoir.
Catherine Gauvin, du Nouveau Parti démocratique. Bonsoir, Mme Gauvin.
Bonsoir.
Louis Plamondon, du Bloc québécois. Bonsoir, M. Plamondon.
Bonsoir.
Nathalie Rochefort, du Parti libéral du Canada. Bonsoir, Mme Rochefort.
Bonsoir.
Et David Turcotte, du Parti vert du Canada. Bonsoir, M. Turcotte.
Oui.
Chacun des candidats aura d'abord droit à une déclaration d'ouverture d'une minute. Par la suite, le débat sera divisé en cinq thèmes. Gestion de la pandémie et finances publiques, agriculture, protection de l'environnement, économie et développement régional et le rôle du gouvernement fédéral. Pour chacun des thèmes, les candidats se verront poser une première question pour laquelle ils auront 45 secondes pour répondre. Puis ma collègue Marie-Ève posera une sous-question qui initiera un débat de cinq minutes, suivi d'un second débat de cinq minutes. Une fois que nous aurons abordé les cinq thèmes, chaque candidat aura une minute pour sa déclaration de fermeture. Avant l'émission, un tirage au sort a déterminé le positionnement des candidats sur la scène et l'ordre de passage pour chacun des segments de l'émission. Chaque candidat aura la possibilité de répondre en premier au même nombre de questions et d'initier le même nombre de segments de débat. L'ordre de passage pour des déclarations d'ouverture et de fermeture est déterminé par ce même tirage au sort. Afin que le débat soit le plus enrichissant pour nos auditeurs, nous vous demandons, chers candidats, de respecter le temps de parole qui vous est accordé afin de permettre à tous les candidats de s'exprimer. Alors, c'est parti. En vertu du tirage au sort, M. Plamondon sera le premier à faire sa déclaration d'ouverture. M. Plamondon, pourquoi avez-vous décidé de vous représenter pour ces élections générales? Vous avez une minute à partir de maintenant.
Avec l'expérience acquise au cours des dernières années comme député et toujours motivé par ce travail, je crois être la personne la mieux préparée pour mieux servir le comté de Bécancour-Nicolet-Sorel. De plus, j'ai établi au cours des dernières années de nombreux contacts dans toute la sphère de la fonction publique fédérale qui me permettent de répondre avec efficacité à vos demandes et vos attentes. Également, j'ai bâti de belles relations avec tous les organismes qui se dévouent au mieux-être culturel, sportif, économique et social dans notre comté. J'espère que nous continuerons à travailler ensemble à compter du 20 septembre prochain. L'élection de plusieurs députés du Bloc a permis d'obtenir de nombreux gains pour le Québec, que ce soit en agriculture, en soutien aux aînés, à la petite et moyenne entreprise, en environnement et en économie. Je m'engage donc à porter les attentes du comté et du Québec à Ottawa et à continuer de vous servir avec autant de dévouement, de présence et d'attention.
Merci.
Bon débat à tous.
Merci, M. Plamondon. Mme Rochefort, c'est à votre tour. Pourquoi avez-vous décidé de vous représenter pour cette élection?
Le goût de servir les citoyens d'abord avant tout, le goût de porter leur parole à Ottawa, influencer le débat public et surtout influencer les projets de loi et règlements qui nous concernent tous. Je m'inscris clairement dans une vision du troisième millénaire, une action politique engagée avec et pour les citoyens, mais avec les citoyens corporatifs aussi. Je m'inscris aussi dans la lignée de Louis Plamondon, dans mesure où Louis a été un député actif sur le terrain depuis 37 ans. Ça mérite vraiment qu'on puisse lui permettre d'écrire ses mémoires et qu'on puisse en profiter toute la gang, donc tous les citoyens. Donc, je m'inscris dans une cellule, dans une idée d'innovation. On est dû pour passer au troisième millénaire dans Bécancour, Nicolet Sorel. Dans une action politique ancrée dans la réalité, dans le pragmatisme et dans l'efficacité avec les citoyens, incluant nos élus municipaux et provinciaux.
Merci, Mme Rochefort. C'est maintenant à M. David Turcotte. Donc, pourquoi avez-vous choisi de vous représenter pour cette élection? Vous avez une minute.
Oui, bonjour. Mon nom est David Turcotte. Je suis du Parti vert du Canada, comme monsieur vient de le dire. Je ne suis pas quelqu'un qui est très à l'aise devant un public, mais moi, je passe par-dessus moi pour participer à un débat. Je vous ramène quelques semaines en arrière. L'été qu'on a connu a été infernal, des semaines et des semaines de canicule, des records de température battus au Québec, battus en Alberta, battus précisément aussi en Colombie-Britannique, des températures qui atteignaient 50 degrés avec l'humidex. L'élection qu'on a, là, c'est le moment là, de voter pour des vraies politiques là, vertes, des vraies politiques pour l'environnement. Notre Nord canadien se réchauffe 3 fois plus vite que le reste de la planète. C'est maintenant qu'on doit mettre des mesures en place. Là. On n'a pas 50 ans, on a peut-être 5, peut-être 10 ans pour le faire. Il faut donner un coup de barre.
Merci, M. Turcotte. On poursuit avec M. Caisse. Monsieur Yannick Caisse, donc pourquoi avez-vous choisi de vous présenter en fait pour cette élection?
Merci de l'invitation. Moi, c'est ma première élection et puis j'ai décidé de me lancer pour représenter les gens. J'ai accumulé un bagage de connaissances au fil des ans avec mon travail et puis j'ai travaillé dans l'immeuble, je travaille toujours dans l'immeuble. Puis mon but a toujours été de satisfaire les familles en travaillant auprès d'eux, à trouver les propriétés et tout. Et aujourd'hui, je me présente en espérant être député et être le représentant de tous, avec les valeurs telles que l'honnêteté et la disponibilité. À l'intérieur du gouvernement, qu'on puisse sortir un jour de la pandémie et de relancer notre économie, être à l'avant-scène aussi à travers le G7, le G20, comme retrouver le pays, la splendeur qu'on était, le Canada. Merci.
Merci, M. Caisse. Et on termine avec Mme Catherine Gauvin. Pourquoi avez-vous choisi de vous présenter pour cette élection? Mme Gauvin.
Merci de m'avoir invitée. Je suis militante pour le NPD depuis de nombreuses années. J'ai été présidente du comité environnement pendant très longtemps. Et il y avait une opportunité pour pouvoir être candidate dans cette merveilleuse région et je me suis portée volontaire. Pour moi, c'est une chance de parler d'une plateforme progressive qui est là pour aider la crise du logement, être capable d'amener un peu d'équité générationnelle, d'amener aussi une parole différente peut-être des deux partis qui sont là depuis toujours, le conservateur et les libéraux, donc pour faire changement. C'est important d'avoir des voix progressives, féminines, c'est important d'inspirer les jeunes à s'impliquer. J'aimerais bien, moi, qu'il y ait quelqu'un de la région qui se présente la prochaine fois et qu'il y ait tout plein de bénévoles et de membres. Je vous invite à vous impliquer. Mais en attendant, crise climatique, c'est ma priorité. La crise du logement, l'équité entre les générations.
Merci. Merci, Mme Gauvin. Passons maintenant au premier thème de ce débat, la gestion de la pandémie et les finances publiques. Première question, que pensez-vous des mesures mises en place pour gérer la pandémie de COVID-19, telles la PCU, la Prestation canadienne d'urgence, et la PCRE, la Prestation canadienne de la relance économique? Et est-il temps, selon vous, d'y mettre fin? La question s'adresse dans un premier temps à Mme Nathalie Rochefort. Vous avez 45 secondes à partir de maintenant.
Dans un premier temps, il faut se rappeler qu'on a agi tous dans l'urgence. Peu importe le gouvernement, où est-ce qu'on est sur notre planète, que ce soit aussi nos élus municipaux, il y avait urgence, fallait fermer l'économie pendant quelques jours, quelques semaines, ou au moins ralentir la pandémie. Dans un premier temps, ça a été aussi de s'assurer que les humains avaient quoi pour se nourrir, avaient de l'argent nécessaire pour payer leur loyer, donc sécuriser ce qu'on pouvait sécuriser. Ensuite, la mise en place de la PCRE, donc, qui a permis aux entreprises, elles aussi à leur tour, de survivre, est une excellente mesure, puisque plusieurs restaurateurs ont réussi à passer à travers la pandémie avec cette mesure. Plusieurs petites usines aussi, des PME ont réussi à passer à travers, et sans oublier aussi la subvention pour les loyers commerciaux.
Merci. Monsieur Turcotte, à votre tour.
C'est sûr que je vais dire comme Mme Rochefort, effectivement, des mesures, une urgence nécessitait des mesures d'urgence. Mais je pense que maintenant, il est temps là, de lever tranquillement là, les problèmes de PCRE, PCU et Prestation canadienne pour Prestation canadienne pour étudiants. Là, j'oublie le nom. Peut-être que je vais m'en rappeler plus tard. Je pense que c'est maintenant le temps là, pour le Canada de se doter d'une vraie politique là, de lutte contre la pauvreté. C'est pourquoi là, le Parti vert, une mesure en laquelle je crois beaucoup, là, c'est le revenu minimum garanti. On peut plus laisser autant de Canadiens dans la pauvreté, avoir de la misère à nourrir leurs enfants, à les laisser dans un état de Oui.
Merci. C'est maintenant au tour de M. Yannick Caisse. M. Caisse.
Au départ, la pandémie, on a eu des alertes. Et puis, on était un petit peu trop lent à fermer les frontières. La pandémie s'est propagée assez rapidement. Les mesures qui ont été prises, il fallait les prendre. Mais à un moment donné, il faut sortir de la PCRE. La PCRE, comme M. Turcotte disait, c'était oui pour la relance économique, mais par contre, ça l'a peut-être... aujourd'hui, il serait temps qu'on passe à d'autres choses. Il y a beaucoup d'entreprises présentement qui sont en manque d'employés. C'est le critère présentement qui est le problème majeur pour les entrepreneurs. On manque d'employés un peu partout, puis c'est vraiment un inconvénient. Il faut prendre des mesures supplémentaires. Autres.
Merci. C'est au tour maintenant de Mme Catherine Gauvin. À vous, vous avez 45 secondes.
Concernant la gestion de la pandémie, je trouve qu'au niveau logistique, ça a été quand même bien. Une chance que le NPD était là, parce que sinon, la PCU au début aurait été de 1 200 $. Effectivement, pour les étudiants, il y a eu un certain laxisme au niveau de la validité là pour vérifier qu'il y en avait déjà eu des emplois d'été. C'était peut-être pas assez serré là, au niveau des critères, mais ça a quand même aidé, ça a fait ce que ça va faire. Il y a des gens qui ont évité de se ramasser à la rue avec des dettes incroyables. Dans ce contexte-là, je crois que ça a bien été. Par contre, au niveau des CHSLD, on peut pas dire que les soins de longue durée à travers le Canada étaient prêts à recevoir une vague avec une pandémie, même si ça avait été mentionné par des scientifiques comme étant la prochaine grande affaire à arriver.
Merci. Et on termine ce tour de table avec M. Louis Plamondon.
Je pense qu'il fallait intervenir, effectivement, lorsqu'est arrivée la pandémie, mais on aurait dû ajuster le programme en chemin. Personne n'avait de solution magique, aucun des partis. Alors, on a ensemble décidé d'y aller. On était tous d'accord pour intervenir. Maintenant, en chemin, on aurait dû ajuster le programme. Au niveau des frontières, on a retardé. Ça, je suis complètement d'accord avec M. Caisse. On a retardé des fermées à Montréal et ça a eu des conséquences néfastes. C'est même la ville de Montréal qui allait donner des dépliants aux gens qui arrivaient pour leur dire de faire 40 jours d'isolation. La PCU et la PCRE auraient dû être mieux ciblées. Il en fallait, par exemple, dans le domaine culturel.
Merci, M. Plamondon. On passe maintenant à notre première période de débat de 5 minutes avec cette question de Marie-Ève. Marie-Ève?
Oui, merci. Les sommes colossales versées par le gouvernement pour faire face à la pandémie et soutenir la population ont laissé des déficits tout aussi colossaux. Êtes-vous inquiet face à l'état de nos finances publiques? La parole à M.
Oui, merci. Au départ, ben, on sait, comme je disais tantôt, c'était très important de soutenir les personnes, les entreprises, mais les montants qui ont été attribués ont été mal ciblés. Dans le sens qu'il y a peut-être des entreprises qui n'avaient plus besoin que d'autres. Il y a des entreprises qui ont fait beaucoup d'argent et même peut-être au-delà de leurs espérances. Mais par contre, c'est ça. Il y a des gens qui avaient besoin plus d'aide que d'autres. Et puis, il y a des entreprises, je ne sais pas comment ça a été appliqué. On va peut-être savoir avec les années à venir de qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné.
Ouais. Qui voudrait réagir?
Moi, j'aimerais réagir. Effectivement, la PCRE, ça nous a fait découvrir qu'un autre problème, en fait, là. Le 2 000 $, c'était pour une grande part de la population plus payant que d'aller travailler. En fait, le problème, c'est les salaires. Là. C'est pas normal que dans un pays comme ça où on a de la misère à se loger à prix abordable, que le salaire minimum soit de 13,50 $. 13,50 $, c'est à peine pour payer les dépenses. Là. Tu peux pas avoir d'imprévu avec ça. Là. Nous, ce qu'on propose, c'est d'augmenter les salaires minimaux. Là. Minimum.
Merci, M. Turcotte. Mme Rochefort?
Je voudrais juste rectifier le tir avec ce que M. Caisse a dit. Dans un premier temps, la fameuse SSUC, oui, payait 75% des salaires, mais on devait avoir perdu quand même de façon drastique des revenus. Et on doit le prouver à chaque mois, encore maintenant, un an et demi plus tard pratiquement. On doit prouver de combien on a de pertes d'argent pour chacune des entreprises. C'est important à savoir parce que
une entreprise de production alimentaire qui a vu ses bénéfices doubler reçoit pas de la SSUC normalement. Le dépanneur qui a vu ses bénéfices augmenter non plus. Ceux qui vont voir sa prestation augmenter, c'est l'usine qui a de la difficulté, qui a vu ses commandes chuter avec le temps, pas nécessairement du jour au lendemain, mais 2-3 mois plus tard et c'est ajustable mensuellement.
Monsieur Plamondon.
Au niveau de ce programme dont parle Mme Rochefort, c'était d'ailleurs dans les premiers débats une des propositions du Bloc à la table. Au début, le gouvernement parlait de 10 % et nous avons cité un document du Danemark qui disait que c'était 75 % et la semaine suivante, le ministre au comité interparti a dit on va y aller dans le même sens. Donc oui, c'était très bien ciblé et c'était par rapport à une diminution de 30 % des revenus de mars en mars, là. Du mars de l'année d'avant à mars de l'année après. Donc, ce programme-là a très bien marché et était nécessaire parce qu'il maintenait des emplois. Au niveau du programme pour étudiants, c'était l'inverse. C'est que on poussait les étudiants à ne pas travailler. Par exemple, ici, le grand métro à Saint-Grégoire avait une vingtaine d'étudiants qui travaillaient l'été et l'hiver et l'été, ils travaillaient à temps plein. Et cette année, ils ne voulaient travailler que 15 heures pour avoir 960 $, pas plus que 1000 pour avoir le 1200 du gouvernement.
J'aimerais laisser un peu de parole à Mme Gauvin.
Je vous en prie.
Merci. Sur le sujet, je trouve aussi que ça a été difficile de recruter des étudiants. Là, je suis présidente dans une petite coopérative, puis on a eu de la difficulté. Mais c'est vrai qu'il y a des étudiants qui sont en région qui n'avaient peut-être pas accès à leurs emplois réguliers. On ne savait pas non plus quel type d'été on aurait. Dans ce contexte-là, il y en a vraiment beaucoup qui ont besoin de ce travail-là pour pouvoir mettre des sous-côtés pour le reste de l'année. Par contre, je trouve que ça a vraiment montré aussi là, l'espèce de différence entre les villes, les campagnes, au niveau là, de l'accès à l'Internet, la capacité de la téléphonie. Il y a vraiment des gens là, qui avaient de la misère à faire leurs cours en ligne. Il y a des gens qui se sont ramassés à être obligés de faire du télétravail avec pas d'accès. C'était vraiment... on a vu... Une certaine injustice là, au niveau là, de l'accès aux télécommunications qui peut vraiment influencer.
Mme Rochefort demande la parole.
Oui. Juste merci, Louis, d'avoir rappelé la contribution du Bloc, justement, concernant la subvention salariale d'urgence. C'est un bel exemple de comment le gouvernement libéral gouverne, c'est-à-dire qu'on est à l'écoute, on collabore avec les partis d'opposition dans le but d'améliorer nos programmes. On n'a pas le sentiment d'avoir le monopole de la raison, comme certains.
Monsieur Kies ou Monsieur Plamondon?
Ben oui, si vous voulez, j'allais dire que certains secteurs qui avaient été mieux ciblés par la PCU, la PCRE, lorsque j'ai terminé tout à l'heure, je voulais citer par exemple au niveau aéronautique, il fallait penser à eux plus précisément puisqu'il n'y avait aucun transport aérien qui se faisait. Alors ces gens-là étaient vraiment plus mal pris que d'autres secteurs. La même chose aussi pour le milieu culturel.
Il reste 10 secondes. Bon. Bien, merci à tous. Marie-Ève, donc, une deuxième question pour relancer une deuxième période de débat.
Tout à fait. Donc, comment entrevoyez-vous la relance économique post-pandémie et que proposez-vous pour aider la région à rebondir? Donc, la parole à Mme Gauvin.
Bien, je pense que la relance, elle peut se faire en mode vert avec une relance où est-ce qu'on coupe les subventions aux pétrolières, là, qui étaient de 10,7 milliards là, depuis que les libéraux sont là, et qu'on investit ça dans une version plus verte pour aider les entreprises, avec la banque aussi, pour la banque canadienne pour l'investissement vert, ça pourrait aider beaucoup aussi à être capable d'aider les entreprises à aller investir, améliorer leurs pratiques, essayer d'être... plus vert, de réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. Aussi, je crois qu'il va y avoir une vraie volonté là, de brancher les familles à travers le Canada là, pour amener de l'équité puis essayer de réduire aussi les frais de télécommunications qui sont vraiment les plus élevés là, dans l'OCDE, ce qui a un impact aussi. On a aussi...
On pourrait y venir, Mme Gauvin. Monsieur Dicasse, non? Pas, Madame, Monsieur Surcotte?
Ah, je peux y aller. Moi, je peux parler d'un sujet qui me touche beaucoup. Mes deux fils sont autistes. Moi, je pense là, que la pénurie de main-d'œuvre nous offre l'occasion, en tant que Canadiens, de faire preuve là, d'ouverture envers les personnes vivant avec un handicap, que ce soit là, un trouble du spectre de l'autisme ou que ce soit des déficiences physiques, par exemple, ou même des déficiences intellectuelles. Là. La pénurie de main-d'œuvre nous offre, là, c'est ça, là, l'occasion là, de tendre la main, de leur offrir des revenus décents, de leur offrir un. De faire partie. Là, de...
Ben, de les considérer comme des humains à part entière.
Exactement, là. Exact. De leur offrir de l'occasion de participer économiquement ou à l'essor du pays, là. C'est pas normal là, que chez les personnes autistes, par exemple, qu'il y a 80% là, de taux de chômage ou de taux là, qui n'occupent pas un emploi. Là. Seulement 20% occupent un emploi, mais il y en a beaucoup là-dedans qui peuvent en occuper
Monsieur
un
Plamondon.
Emploi.
Là. Oui, mais ça va être, je pense, le problème de la relance, ça ne sera pas tellement les investissements ni les budgets gouvernementaux, mais ça va être la recherche d'employés. Quelqu'un disait maintenant, ce n'est pas d'investissement qu'on a besoin, c'est d'employés qu'on a besoin. C'est tous les secteurs cherchent de la main-d'œuvre. Et là, il va falloir faire preuve d'imagination. Je pense que, par exemple, aux personnes aînées qui ont 65 ans et plus, ils ont le droit, depuis quelques années, de travailler jusqu'à 5 000 $ sans que ça touche à leur supplément de revenu garanti. Peut-être qu'on peut monter cette barrière-là jusqu'à 15 000 $ 10 000 ou 15 000 $ pour amener beaucoup de gens sur le marché du travail sans que ces personnes soient pénalisées par les économies qu'elles ont faites dans leur vie ou par les FER ou les RER qu'ils reçoivent présentement. Ça ne changerait pas leur supplément. Alors ça serait peut-être une chose. Et surtout, par l'immigration, bien sûr, en déplaçant les immigrants de Montréal vers les régions.
Et là-dessus, j'agis concrètement, parce que je n'ai pas attendu qu'on ait une campagne électorale ou une pandémie. Depuis 2019, j'ai le plaisir d'être DG d'une chambre de commerce, mais je suis depuis 2014 présidente d'une fondation que j'ai mise au monde, où on accueille 1 000 immigrants par année. Je suis fière de mes résultats, parce que suite à mes diverses implications, on a accueilli des immigrants dans la région. Même le 25 août, Louis était à une activité qu'on a fait à Odanak. On avait une dizaine d'immigrants qui sont venus nous voir et qui se sont intéressés à notre région. Et grâce à l'accueil des humains qui se sont occupés d'eux, qui ont été gentils, qui ont leur posé des questions, ils sont intéressés. Ils ont envoyé leur CV en disant « Envoie mon CV n'importe où. Ça m'intéresse de déménager chez vous, dans votre région. »
Monsieur Caisse, vous voulez profiter du droit de parole?
Ben, nous, on regarde pour remettre 1 million de personnes à l'emploi. Et il faut regarder les incitatifs et voir auprès des entreprises c'est quoi vraiment le besoin. Il y a la formation qui est importante. C'est la façon de regarder d'un océan à l'autre qu'est-ce qui peut... Les besoins d'ici, c'est peut-être pas les mêmes. Ici, M. Plamondon, on parlait d'immigration aussi. Au Québec, le problème, c'est qu'on pourra avoir notre statut d'immigrant. Ça peut prendre 3 ans avant de l'avoir. Tandis que dans le reste du Canada, c'est 6 mois. C'est un petit peu dommage parce qu'il y a des gens qui arrivent ici, des gens qualifiés, puis ces gens-là ben, quittent la province pour aller s'établir dans d'autres provinces parce que c'est trop long. Il faut éliminer la bureaucratie.
Bon, je vois que vous n'avez pas tout à fait vos devoirs, là, mais bon, il y a moyen d'accélérer les processus. Les gens qui rentrent au Canada avec une résidence permanente ont un droit plein et entier de travailler. Le problème, c'est qu'ils s'installent souvent dans les régions centres, comme Montréal ou Québec. Et nous, notre job, c'est de les attirer pour qu'ils viennent s'installer parmi nous si on veut vraiment contribuer à notre développement économique.